Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h10 passé de 4 minutes, le club de la presse numérique. Cette semaine, le président de la République, Emmanuel Macron, lançait son grand débat national pour participer de solutions. Vous pouvez participer à des réunions ou les organiser à partir du kit disponible sur le site du grand débat ou en contribuant en ligne à partir de demain, 21 janvier. Et ce soir, justement, dans le club de la presse numérique, on s'intéresse aux expressions démocratiques en ligne avec Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express, et Eliott Lepers, fondateur de l'ONG Le Mouvement. Sont-elles efficaces? Comment cela fonctionne? Sur quels exemples peut-on s'appuyer? C'est le sujet de ce club de la presse avec, pour commencer, Eliott Lepers, une consultation en ligne. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un moyen d'expression démocratique?
Oui, il y a plusieurs approches, parce que ça peut être effectivement simplement avoir une consultation, donc faire émerger des idées pour produire une base intellectuelle sur laquelle on va pouvoir former des lois. Ça, c'est un peu le format de base. Et puis après, ça peut prendre plusieurs évolutions. Et là, effectivement, ce à quoi on assiste dans la suite de la crise des Gilets jaunes, c'est l'objectif étant de recréer un moment politique. Donc c'est beaucoup plus chargé émotionnellement que ça peut l'être, par exemple, dans les travaux des assemblées ou du Parlement pour essayer de recueillir un certain nombre d'avis. À la base, un avis d'experts, de personnes éclairées, hein, c'est des fameuses auditions qui sont fréquentes dans n'importe quel processus d'écriture de la loi à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et qui peuvent s'appuyer, on l'a vu avec la loi numérique, notamment en France, qui a été un bon exemple de consultation, qui peut s'appuyer sur un dispositif ouvert où n'importe quel citoyen, n'importe quelle citoyenne peut participer pour venir produire une intelligence qui soit collective.
Emmanuel Paquet.
Oui, alors effectivement, on voit un mouvement qui est pas simplement né en France, hein, on voit un peu partout sur la planète des initiatives. Alors, il y a même un terme qui est né en fait dans la presse anglo-saxonne, on appelle ça maintenant du crowd law. Donc ça serait, on peut dire ça, de la loi faite par le peuple ou faite
c'est
par la foule.
C'est une partie de ce qu'on appelle aussi les civic tech, c'est-à-dire les technologies autour
voilà,
du civique.
Voilà, liées à la société civile, effectivement. Ouais. Et à ce propos, il y a eu même un sondage qui a été réalisé par le Pew Research Center en 2017, à l'échelle de 38 pays, pour savoir quel était le meilleur mode de gouvernement aujourd'hui donc en Europe et dans d'autres pays. La question qui a été posée en France, et il se trouve que les Français considèrent que la démocratie représentative, donc telle qu'on la vit aujourd'hui, est le meilleur des systèmes à 81%. Et la démocratie directe, donc celle dont on est en train de parler, hein, c'est 74% des Français qui seraient pour une démocratie directe. Arrive en troisième position une démocratie en fait liée à des experts, faite par des experts. Là, on est à 44%. Puis après, 17% pour une démocratie avec un homme, un dirigeant fort. Et donc 12%, pardon. Et l'armée, qui arrive en dernière position, donc un pays dirigé par l'armée, c'est 17% des Français qui le souhaiteraient. Juste à titre de comparaison, en Allemagne, par exemple, à 90%, les Allemands sont heureux de la démocratie représentative, mais 74% seraient aussi d'accord pour une démocratie directe, et c'est 71% en Italie. Donc on voit qu'il y a quand même une envie et un besoin de démocratie directe qui émerge un peu partout dans les pays européens, mais même en dehors, on en parlera tout à l'heure peut-être. C'est le cas notamment à Taïwan, qui est en train de faire une tentative et des expérimentations de ce point de vue-là.
Quels seraient les critères, Eliott Lepers, pour réussir une mobilisation en ligne?
En fait, moi, je pense que le principal enjeu, c'est de savoir à quel point, si l'objectif, c'est effectivement de créer la loi, à quel point le pouvoir est prêt à entendre ce qui émerge de cette consultation. Et c'est aujourd'hui ce qui est le plus compliqué, parce que notre démocratie, elle n'est pas forcément faite pour laisser la place à une expression qui serait complètement démocratique. Est-ce qu'on est en mesure de traduire dans la loi tout ce qui ressort de cette consultation? Est-ce que d'ailleurs c'est souhaitable? Est-ce que le filtre du politique finalement est pas nécessaire de la représentation? C'est là-dessus que je joue la nuance, parce que on peut se dire que finalement, si des gens participent, si des gens contribuent, proposent des idées, et que derrière il y a un filtre arbitraire qui est celui du politique et donc de l'arbitrage de savoir quelle direction on veut donner aux politiques publiques, eh bien ça peut être décourageant pour les gens qui ont participé. Et en même temps, voilà, c'est le jeu de la République.
Emmanuel Paquet.
Oui, comme le disait Eliott, il y a quand même plusieurs possibilités en démocratie directe, plus ou moins complexes. La première, c'est effectivement de peser sur l'écriture d'une loi qui n'est pas encore rédigée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a peu vu en France ou pas vu, mais on l'a vu dans d'autres pays. Mais il y a un autre processus, il y a deux autres processus. Il y en a un autre qui est simplement la loi existe et on va l'amender. Et à ce moment-là, les citoyens peuvent créer et peuvent écrire un amendement. C'est d'ailleurs la consultation publique du Conseil national du numérique. Il y avait dans les 9 recommandations, il y avait une des recommandations qui portait sur la rédaction d'amendements par les citoyens pour amender une loi qui est...
Ça a été fait par exemple pour la loi Le Maire sur la consultation, sur la loi numérique justement en 2015 où on pouvait contribuer sur le site dédié à améliorer la loi.
C'est ça.
Qui était elle-même une loi numérique, donc c'était évidemment l'occasion.
Là on parle même de rédaction d'amendement. Hein,
d'amendement, c'est-à-dire
qu'on peut, avec un amendement, on peut même vider quasiment la substantifique moelle d'une loi. Donc ça peut aller un cran plus loin. Et puis le troisième élément qu'on voit pas encore du tout en France, mais par exemple les Suisses, puisqu'on en parle beaucoup de la Suisse et de la démocratie directe en Suisse, le permet, c'est simplement de défaire une loi existante. Et là, c'est les citoyens qui se mettent tous ensemble en disant « cette loi-là ne nous convient plus ». Et alors à ce moment-là, il faut établir un seuil à partir de combien de personnes on estime qu'on peut passer un référendum, une vote sur une loi ou modifier cette loi. Et là, d'un pays à l'autre, et en fonction de la population d'un pays à l'autre, il peut y avoir de grandes disparités.
Eliott Lepers, quelles sont les limites de ces mobilisations qui parfois ne sont pas plus représentatives que les lois normales et par ailleurs avec des problèmes de démocratie aussi des problèmes techniques qui peuvent surgir?
Non mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, on se souvient peut-être de l'exemple du TAFTA au niveau européen où il y avait eu une grosse mobilisation citoyenne, il y avait une pétition, donc une initiative citoyenne européenne qui avait rassemblé le nombre de signatures, c'est-à-dire 1 million de signatures au niveau européen, qui avait été présentée et qui avait été rejetée parce que ça n'avait pas pour objet de saisir la Commission européenne d'un nouveau projet de loi, mais ça avait pour vocation d'empêcher l'arrivée de ce projet de loi qui était existant. Et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Effectivement, c'est le cas en Suisse. En Suisse, on a cette possibilité d'empêcher en tant que citoyen l'émergence, l'arrivée d'une nouvelle loi. Et ça, c'est un des projets qui est porté aujourd'hui par les revendications sur les aménagements de notre démocratie. Donc la limite technique, elle est beaucoup là-dessus, de savoir quel pouvoir on donne à cette capacité. Il y a le nombre, évidemment, qui est très important, 1,4% actuellement en Suisse de la population pour les référendums les plus contraignants. Et puis derrière, il y a les personnes qui participent, en fait. Ça, c'est un gros enjeu. C'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt des personnes connectées, plutôt des personnes qui sont déjà au fait de ces sujets. Sur la loi numérique, qui est le dernier exemple en date en France, hein, sur la numérique, c'est 50% de gens qui sont adhérents à des associations qui ont participé. C'est 70% de gens qui votent systématiquement aux élections.
Qui sont donc déjà mobilisés, voilà, politiquement.
Ouais. Et après, c'est 30 000 personnes effectivement qui se sont inscrites. C'est à peu près 18 000 personnes qui contribuent, donc qui proposent des amendements ou qui votent sur des projets. Et donc, c'est un nombre finalement assez restreint.
Oui. Voilà. Cette semaine, le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, lance son débat lui-même, en parallèle du grand débat, sur les nouvelles régulations numériques avec le Conseil national du numérique, la autre tentative d'une certaine manière. Est-ce que ce n'est pas seulement, parfois, ces consultations de la communication, finalement ?
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on inverse ce que la démocratie directe doit être. C'est-à-dire qu'en réalité, la démocratie directe, c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire l'initiative née de la population et des citoyens et remonte vers le politique. Là, quand c'est un homme politique qui s'en appare et en disant « je vais vous donner la parole », tout de suite, ça devient suspect en réalité. Parce que on l'a bien vu aujourd'hui, la démocratie directe, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission d'ailleurs, c'est pris en grande partie par des mouvements populistes qui disent en gros « vous les citoyens, on vous écoute pas ». Personne ne vous écoute, ce sont les experts, ce sont les hommes politiques qui dirigent le monde, qui dirigent votre vie, et on ne vous écoute jamais. Et la démocratie directe, c'est d'inverser ce système-là, c'est de vous donner la parole et de faire émerger la parole des citoyens au lieu de celle d'experts et de sachants. Donc là, quand on a quelqu'un en France qui dit « moi, homme politique, je vais vous proposer de participer », on inverse totalement ce qu'est la démocratie directe et quasiment la vide de sa substance.
Eliott Lepers, c'est pas que de la communication, parfois, ces consultations?
Mais c'est évidemment le risque. Et je pense que dans une majorité de ces consultations, et notamment en France, effectivement, on reste dans la communication politique. On reste dans se donner un vernis moderne, un vernis de consultation, mais derrière qui ne remet pas en question l'exercice du pouvoir. Donc ça, c'est le gros enjeu. Mais par exemple, si vous prenez le budget participatif à Paris, eh bien, il y a effectivement une partie du budget de la ville de Paris qui est véritablement allouée en fonction du vote des Parisiens. Donc il y a 6% des Parisiens qui participent et derrière qui ont la possibilité d'arbitrer directement ces dépenses-là. Donc ça arrive. L'enjeu, c'est effectivement de voir quels sont les instruments démocratiques qui nous nous permettre de rendre ces consultations-là contraignantes et de voir comment est-ce que ça peut être constitutionnel, parce qu'on on peut se souvenir de l'exemple de l'Islande avec un grand moment démocratique.
Oui, en 2011, où des citoyens sont élus pour écrire la nouvelle constitution du pays, lutter contre la crise de leur représentativité. Et cette constitution a été écrite, mais le processus est bloqué depuis, je crois, 2013.
Ouais, parce que effectivement, les 25 personnes, 27 personnes qui avaient été élues avaient été jugées non constitutionnelles dans leur représentativité. Et derrière, eh bien, le projet qui a été écrit.
Mais c'était pas d'ailleurs une consultation numérique pour le coup. Alors, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une forme de démocratie directe, mais qui n'était pas du tout digitale.
Oui, les deux sont pas forcément liés. D'ailleurs, oui. Pour prendre l'exemple de Kingersheim en Alsace, qui est une ville qui est dirigée par Joe Spiegel, qui effectivement depuis 20 ans met en place de la démocratie participative à l'échelon local. Là, ça se passe bien très concrètement dans une maison des citoyens, avec une assemblée représentative de citoyens, mais avec l'enjeu de les former en amont. C'est-à-dire qu'on va former l'ensemble des citoyens d'un territoire pour qu'ils puissent être légitimes et pour qu'ils puissent être en capacité d'intervenir de manière éclairée sur un sujet.
Zoé Cèze.
Est-ce que le numérique, justement, n'est pas un moyen de contrer le principal argument des gens qui sont aussi la démocratie directe, à savoir que finalement, la démocratie directe a un problème d'échelle quand on est sur des grands pays, sur des grosses décisions.
Oui, ça marche en Suisse.
Ça marche en Suisse, ça marche dans la démocratie athénienne, ça ne peut pas marcher à l'échelle de pays tels que sur les nôtres. Est-ce que le numérique le permet vraiment, selon vous ?
Aujourd'hui, il y a une expérimentation qui existe à Taïwan, qui est pour le coup un grand pays. Il y a une plateforme participative qui a été lancée qui s'appelle V-Taiwan. Alors, elle a été lancée en 2016 et la première expérimentation, c'était sur la légalisation de l'alcool. Le gouvernement n'arrivait pas à s'entendre sur est-ce qu'il fallait légaliser ou pas l'alcool. Et donc, il y a une grande consultation publique sur cette plateforme.
Oui, l'alcool à Taïwan.
En tout cas, elle était interdite ou encadrée. En tout cas, la vente
encadrée,
la vente d'alcool.
Et il y a eu une première. Je me souviens avoir bu à Taïwan, donc ça, ça existe l'alcool à Taïwan légalement.
Peut-être dans certains endroits, mais peut-être pas dans d'autres. Donc là, c'était une légalisation complète de la vente. Et il se trouve que le système avait donné, les citoyens avaient demandé à ce qu'il y ait une légalisation complète de la vente d'alcool, et ça n'a jamais été appliqué. Mais depuis 2018, depuis le 1er janvier 2018, tout le système de V-Taiwan qui notamment permettait de mettre en ligne des projets de loi ou des processus de modification de régulation a été ouvert et les seuils ont été abaissés, notamment sur le nombre de signatures. Mmh. Et depuis, il y a plus de 26 initiatives qui ont vu le jour, donc depuis le 1er janvier 2018, donc quasiment en un an. Et on voit à l'échelle de Taïwan les premiers pas d'une démocratie directe. Alors plutôt sur des processus de régulation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut ou pas interdire les chauffeurs Uber, est-ce qu'il faut ou pas légaliser l'alcool dans tous les endroits. Donc pour l'instant, c'est des questions relativement simples, mais il y a d'autres questions qui sont en train de se poser, notamment le mariage homosexuel qui a été posté sur V-Taiwan comme une des grandes initiatives sur lesquelles doivent se battre les citoyens dans les mois qui viennent.
Et justement, c'est peut-être l'une des dernières réflexions qu'on peut avoir sur ces questions-là. Démocratie participative, si on n'est pas dans un processus constitutionnel, c'est-à-dire où les politiques sont tenues constitutionnellement de le faire, on peut bien s'imaginer que si Emmanuel Macron reprend des initiatives qui sont par exemple mentionnées par les maires lors de ce grand débat, puisqu'il n'est tenu à rien et qu'il va pouvoir faire son marché, on n'est plus vraiment dans la démocratie participative et il sera accusé de récupération. Donc finalement, on est un petit peu dans une dialectique impossible avec cette histoire de grand débat.
Il le perce.
C'est un peu tout le problème de ce grand débat où effectivement on avait l'émergence d'une forme de convivialité, discussion politique sur les ronds-points notamment, qui se retrouve un peu dans sa traduction institutionnelle. C'est un QCM avec 82 questions et 4 choix de réponse.
Mais quelles sont les autres solutions?
Moi, je pense qu'effectivement, les usages du numérique contraignent nos démocraties à s'ouvrir plus et à produire plus de formes de représentativité. Mais derrière, la solution, elle n'est pas forcément dans un formulaire en ligne. C'est plutôt dans des choses simples. L'exemple de l'Irlande, par exemple, qui, par la mobilisation populaire, a gagné un référendum sur la question de l'IVG, du droit à l'avortement. Et derrière, eh bien, notamment chez les plus jeunes, c'est 87% de participation à ce référendum.
Puis en Irlande, il y avait aussi en 2012 une convention constitutionnelle qui était issue du travail de réécriture de la Constitution par des citoyens qui a été pérennisé depuis 2016 par exemple, sans que ce soit numérique, mais c'était quand même de la démocratie disons directe à sa façon.
Ouais, l'enjeu c'est en fait de recréer de la vulnérabilité. C'est le principe.
Vulnérabilité.
La vulnérabilité pour le pouvoir. C'est ces interstices-là qui nous permettent de se. De
ça c'est
considérer
un peu foucaldien comme formule ou deleuzien.
On peut se réapproprier cette représentation finalement.
Emmanuel Paquet pour terminer.
Oui, alors juste il y a un risque aussi dans la démocratie directe. C'est simplement que des lobbies agissent en sous-main pour justement.
On l'a vu avec les gilets jaunes ou tout à coup.
Et le manif pour tous, le mariage pour tous, c'est devenu la revendication numéro 1.
Des gilets jaunes, alors
quasiment absente des cahiers de doléances concrètement localement.
Bien. Eh bien, on en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous deux, Emmanuel Paquet de L'Express et Eliott Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ong. Justement, vous faites de la démocratie d'une autre manière. En tout cas, vous essayez des civic tech à votre façon.